Vendredi 29 novembre de 18h à 20h, branchez-vous sur les 3-8 pour un rendez-vous aux couleurs du projet Dramaturgie arabe contemporaine Hiwarat. La grenouille vous embarque dans son studio avec temps libre et dans son émission spéciale Hiwarat à la Friche Belle de Mai.
Vous écoutez bien le 88.8 en direct pour cette spéciale. Alors Hiwarat en quelques mots. Hiwarat, vous pouvez en consulter le programme sur le site de la Friche Belle de Mai, www.lafriche.org. C'est du 26 novembre au 1er décembre, principalement à la Friche. On en parlait il y a peu avec Alain Arnaudet, donc c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps et qui réunit plusieurs partenaires, la Friche Belle de Mai, mais aussi le théâtre Al-Ahra en Palestine, dont nous avons une représentante, Marina Baram, bonjour.
Bonjour.
Hello. Le théâtre, d'autres structures comme Shams au Liban et le Théâtre en Tunisie, et puis les soutiens de diverses institutions dont MP 2013 et la région, avec un vaste de programmes de recherche de nouveaux textes de théâtre dans 10 pays, et puis des textes qui pour la plupart sont mis en scène et montrés pour la première fois ici, qui vont également tourner dans les pays dont ils sont issus, si tout va bien, et puis dans la région, là, ces jours-ci, notamment du côté de Grasse, Cavaillon, Draguignan, Toulon, Port-de-Bouc, Cannes, Gap, et évidemment, donc, Marseille. À noter que l'école régionale des acteurs de Cannes est aussi très partie prenante dans ce projet, que d'ailleurs, on entendra plusieurs lectures réalisées par des acteurs de cette école au long de cette émission, et que il y a aussi le projet La Lune dans le Puits, un joli projet confié à François Bonne par MP 2013 qui tourne dans ces différents lieux en région, entre autres choses. Hiwarat, ça veut dire dialogue en langue arabe, et on est là justement pour discuter, Emmanuel, avec nos deux premières invitées, Marina Baram que je présentais et Dounia Bensliman, bonjour.
Bonsoir.
Qui est directrice des abattoirs de Casablanca. C'est ça?
Oui, je crois, hein, c'est cela.
Et c'est comme ça qu'on nomme cette... C'est une sorte de friche aussi, un petit peu, on pourrait dire.
Oui, c'est une friche qui est en construction depuis quelques années, depuis 2009. Donc ce sont des anciens abattoirs de Casablanca qui sont restés opérationnels à peu près 80 ans, depuis 1922 à 2002. Et que... qu'un collectif d'associations, donc de 17 organisations culturelles et artistiques à Casablanca et de nombreux individus à titre personnel en tant qu'artiste ou journaliste ou acteur de la société civile ont décidé, à l'initiative de la municipalité, donc de la mairie de Casablanca, de transformer en espace culturel dédié aux arts urbains et contemporains. Donc ça a démarré en avril 2009 par un gros événement qui a duré 2 jours, qu'on a appelé les transculturels des abattoirs, et qui avait pour objectif donc d'abord d'ouvrir l'espace au public en tant qu'espace artistique, mais aussi pour faire la préfiguration, l'expérimentation du lieu, et donc valider que c'est un lieu qui peut effectivement être dédié à ce genre d'activité à Casablanca.
Alors comme le disait effectivement Alain Arnaudet, ce festival s'appuie sur des structures. Mais je pense que c'est important, avant de parler, comme on le fera dans cette deuxième émission, de la question artistique au sens des productions artistiques et de leur contenu, peut-être s'arrêter d'abord sur les contextes de production, Casablanca d'un côté et la Cisjordanie de l'autre côté, la Palestine, car je crois que le théâtre Al-Ahra est en Cisjordanie, et que j'imagine qu'on est là dans des contextes qui sont quand même très influents sur les procédés de production. Comment ça se passe? Comment un théâtre peut exister? Et comment, dans les conditions qu'on connaît en Palestine, comment un théâtre arrive à exister et à produire des pièces, par exemple, en Cisjordanie?
Et on est toujours avec Georges, notre fidèle traducteur.
C'est une question pour Dounia Bensliman.
On a vu ça, قبل الحديث عن الانتاج الفني انه راح نحكي عن السياق اللي بيتم فيه الانتاج الفني فكيف فينا نحكي عن تياتري عن مسرح بيتم انتاجه في الضفة الغربية ونحن بنعرف شو هو الوضع في الضفة الغربية فاذا بتحكي لنا عن كيف بيتم العمل يعني في هذا الوضع.
مارينا بعام.
أولا إنتاج مسرح إن كان في فلسطين أو في أي بلد أخرى مش موضوع سهل لأنه بواجه تحديات كتير كبيرة خاصة في مجال اختيار المواضيع ومجال الإنتاج نفسه. في فلسطين التحديات مختلفة لأنه إحنا تحت احتلال إسرائيلي، لكن بالرغم من هيك إحنا بنحس إنه المفروض نقدم مسرح اللي بيعبر عن الحياة اللي إحنا بنعيشها بس بطريقة فنية بمستوى فني عالي. المعيقات كتير أكبر، لكن في نفس الوقت بنحاول إنه نكون نشتغل بشكل اللي يعبر عن المسرح الفلسطيني أو عن الشعب الفلسطيني بطريقة جيدة، إنه إحنا عندنا مسرح وبنشتغل مسرح وبنحاول نوصل بهذا المسرح مش بس داخليا كمان في على مستوى أوروبي كبير.
Elle disait que la production théâtrale, il est difficile partout dans le monde, donc on peut imaginer encore en Palestine, vu le contexte, que c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'on est en situation d'occupation israélienne, donc que vous connaissez. Et donc le but pour eux, c'est de pouvoir travailler artistiquement, ça veut dire de manifester ce qu'ils ont à dire artistiquement et de diffuser cette parole artistique à la fois en Palestine et aussi à l'extérieur du pays pour montrer de quoi ils sont capables de faire, mais par l'outil qui est la leur, qui est le théâtre.
J'imagine que, évidemment, de fait que le territoire palestinien est extrêmement morcelé par l'occupation israélienne, j'imagine que dans ce théâtre, plus qu'ailleurs, les productions sont vraiment des productions des artistes véritablement, de la localité, du fait de la difficulté de circulation à l'intérieur des territoires. J'imagine que ça joue par exemple, le fait que ce théâtre travaille avec des artistes d'une proximité vraiment, voilà, réelle.
مسألة على إنه فكرة إنه الأرض في فلسطين كتير مقطعة والتواصل كتير صعب، فإنه معناتها الإنتاج الفني اللي بتعملوه هو إنتاج فعلا لفنانين كتير قريبين من الجمهور أو من الوسط اللي عم بيشتغلوا فيه، بحكم إنه كتير في صعوبة بالتنقل، أو كيف بتشتغلوا على هذا المستوى؟
إحنا أولا مسرح الحارة مسرح ما فيش عنده قاعة مسرح، فإحنا مسرح متجول، إحنا مسرح بحاول يوصل لكل المناطق الفلسطينية إن كانت قرى أو مخيمات أو مدن في جميع الضفة الغربية. في فترات مختلفة إحنا مرينا فيها، فترات سياسية اللي كانت كتير صعب التنقل فيها مثلا من بيت لحم لجنين أو لطول كرم، لكن منحاول دايماً نلاقي طرق اللي نوصل للجمهور، نوصل للأماكن. طبعاً الموضوع مش سهل، بس حسب الوضع السياسي اللي احنا منعيش فيه، الممثلين لأنهم هم نفسهم من مناطق قريبة من بعض، يعني عنا الطاقم الممثلين اللي في مسرح الحارة من منطقة بيت لحم، من القدس، في من بيت صحور، هلأ في العرض اللي احنا منقدمه هون في عنا كمان من منطقة نابلس، لكن منحاول نلاقي طرق بديلة اللي نوصل فيها للجمهور ونتحدى كل المعيقات اللي بتواجهنا.
هو المسرح Le théâtre, donc, il est sans. C'est un théâtre. Il n'y a pas d'espace pour le théâtre, donc ça joue chaque fois ailleurs, dans des endroits différents. Et selon les périodes politiquement compliquées ou pas, parfois il y a des périodes qui sont plus tendues que d'autres. La difficulté d'aller dans les villes à côté, ça devient plus difficile ou moins difficile, ça dépend. Par exemple, la cité Jénine ou Toul Kerm, donc parfois c'était impossible d'y aller. Donc toujours ils sont allés à la recherche des moyens pour arriver au maximum du public. Ils travaillent souvent avec des acteurs qui sont très proches de l'endroit où le spectacle va être joué. Donc, il essaie toujours de lutter contre cette situation et trouver les moyens pour arriver au maximum de spectateurs.
وفي مناطق اللي احنا كتير صعب نوصلها، زي مثلا القدس بالنسبة لنا كتير صعب نوصلها لأنه ممنوع ندخل القدس كحاملين هويات ضفة أو هويات فلسطينية. غزة مستحيل ندخلها نهائيا لأنه في منطقة مختلفة مغلقة، فإحنا مرات كتير بنلتقي في الفنانين اللي من غزة في خارج البلد، يعني مش في داخل فلسطين وإنما خارج فلسطين.
Par exemple, pour Jérusalem, c'est très très difficile de se rendre pour eux. À Gaza, c'est quasi impossible. Parfois, ils sont obligés de se rencontrer avec les artistes de Gaza en dehors de la Palestine, ailleurs, en Jordanie ou ailleurs.
Cette question des contextes de production se pose aussi à Casablanca, parce que la fabrique des anciens abattoirs, elle est quand même dans un quartier qui a une histoire à Casablanca, qui est un quartier quand même assez pauvre, avec des problèmes de logement, et que vous avez dû aussi, un peu à la manière de, j'imagine, la manière dont la friche ici se pose la question de comment vivre dans un quartier qui est celui de la Belle de Mai, aux abattoirs, vous avez eu cette réflexion. Je crois que vous avez par exemple travaillé sur la construction d'une aire de jeu et tout un travail en direction du quartier.
Oui, alors effectivement, les anciens abattoirs se trouvent dans un quartier qui s'appelle Hey Mohammadi à Casablanca. C'est un quartier qui date des années 20-30 également, et qui a une histoire particulière, parce que c'était le quartier industriel de Casablanca, le quartier ouvrier, et surtout le quartier de l'émigration, où il y avait une importante exode rural, enfin à l'intérieur du Maroc, mais aussi d'importantes implantations industrielles et ouvrières, des usines, etc. C'est un quartier qui a une lourde histoire politique également, parce que d'abord, à l'époque du protectorat français, c'était un quartier où il y avait beaucoup, beaucoup de résistants. Et puis après, par la suite, beaucoup d'opposants politiques au régime de Hassan II et beaucoup de syndicats, syndicalistes, etc. Donc c'est un quartier assez opposant, on va dire. Il y avait également au niveau de ce quartier, toujours pour rester dans le contexte, un centre de détention arbitraire, donc un centre de torture qui est resté là quand même pendant 30 ans, des années 60 aux années 90, où on emprisonnait de manière arbitraire des opposants politiques. Donc c'était un centre secret qui se situait dans un commissariat. Et si vous voulez, donc ce quartier, de par cette histoire, a été plus ou moins marginalisé. Donc c'est on l'a laissé en fait sombrer dans la précarité, dans la pauvreté, dans le manque d'infrastructures, etc. En même temps, c'est aussi un quartier où il y a beaucoup de dynamisme culturel depuis toujours, où la société civile, les habitants ont fait beaucoup, beaucoup de travail associatif pour justement pallier à ce manque. Et du coup, le projet de reconversion des abattoirs en espace culturel a vraiment toute sa place. Parce qu'aujourd'hui, ce quartier se trouve quand même au centre de Casablanca, à proximité de la future gare TGV, du centre-ville, du tramway. Donc aujourd'hui, il y a des connexions qui peuvent se faire avec le reste de la ville. Et bien évidemment, c'est une infrastructure tout à fait nécessaire pour le quartier. Ça permet, ça nous permet, nous, parce que dans notre vision, c'est aussi le fait d'utiliser les abattoirs, évidemment, pour mettre à disposition des artistes, des espaces de création, des espaces de diffusion, des espaces de formation, mais c'est aussi un moyen de participer, de travailler avec les publics, de faire de l'éducation populaire, d'amener les gens vers l'art, vers la culture. Parfois accidentellement. Comme exemple, vous avez bien cité l'aire de jeu. L'aire de jeu, c'est un prétexte pour que les enfants viennent, amènent leurs parents, leurs mamans, les week-ends, les mercredis après-midi, et voient en passant une expo, un concert, des gens qui font du skateboard ou n'importe quoi. Donc c'est aussi un moyen de donner accès à la culture à des populations qui ne l'ont pas forcément.
Je vous propose qu'on se retrouve juste après une petite pause musicale, si vous voulez bien, avec nos deux invités, Dounia Ben Slimane de la Fabrique des Abattoirs de Casablanca et Marina Baram du Théâtre Al-Hara en Palestine. On écoute Téménic Électrique qui joue ce soir, ce vendredi soir, 29 novembre, aux grandes tables de la Friche dans le cadre d'Iwarat, un disque nénuphar sur les ondes de la grenouille de l'Arab Rock from Marseille.
العود مستعد
Aïnek de Téménique Électrique qui joue ce soir, vendredi 29 novembre, aux grandes tables de la Friche dans le cadre d'Iwarat. Iwarat, ce sont sept nouveaux textes qui donnent lieu à des premières de création ici à la Friche Belle de Mai jusqu'au 1er décembre. Entre autres choses, ce sont aussi des rencontres avec des acteurs des dramaturgies arabes contemporaines. Et c'est une émission spéciale où nous avons commencé, Emmanuel, de discuter avec nos deux invités des contextes. Des moyens et des difficultés de production, Dounia Ben Slimane et Marina Baram.
Et justement, pendant qu'on écoutait cette musique, je me faisais la réflexion sur la question des moyens de production, parce qu'ici à Marseille, on s'inquiète 2014, comment on va faire sans l'argent de la capitale culturelle, et en même temps, quand je vois qu'aux abattoirs, les subventions de 2011, c'était en fait les subventions de 2010, c'est-à-dire que vous avez fait une année sans subvention d'une certaine manière. J'imagine qu'en Palestine, les subventions ne doivent pas être également très, très nombreuses. En gros, comment faites-vous ? Je pense que nous avons à apprendre de vous sur comment faites-vous pour produire des projets artistiques avec si peu de moyens. C'est une question que j'adresse à la fois à Dounia et à Marina. Marina, peut-être ?
هو كان عم يسأل على وسائل وإمكانيات الإنتاج يعني هو كان عم بيحكي على حالة مرسيل عم بيقولوا إنه شو رح نعمل بال 2014 إنه بس تخلص سنة العاصمة الثقافية إنه من وين رح نجيب المصاري فهو كان عم يقول إنه مثلا أعطى مثال على بالمغرب إنه هن وصلتهم المصاري كانت مخصصة لل 2000 تبعت 2010 وصلتهم بال 2011 يعني في سنة كاملة كانوا بدون أي دعم فكيف أنتوا كيف بتشتغلوا على موضوع كيف بتأمنوا دعم للإنتاج الفني
موضوع الإنتاج الفني في فلسطين كتير صعب تلاقي فاندينج له من نواحي كتيرة خاصة الإنتاج إذا كان مسرح بنعمل بمستوى فني كويس احنا ما عندناش دعم من السلطة الفلسطينية او من وزارة الثقافة الفلسطينية، لان هم عندهم ميزانية وزارة الثقافة 0.02% من الميزانية العامة.
Elle disait que c'est très difficile de trouver des fonds de soutien, en tout cas en Palestine, pour faire de la production, surtout pour le théâtre, et surtout lorsqu'il s'agit d'un théâtre, on va dire, artistique, pas un théâtre commercial. Et en tout cas, ils n'ont pas de soutien de l'autorité palestinienne, et que le ministre de la Culture, le budget du ministre de la Culture, c'est 0,02% du budget total. Donc on peut imaginer que voilà.
فكتير صعب إنه نطلب من وزارة الثقافة أي دعم للاستمرارية للاستقلالية المادية، فإحنا كتير بنعتمد على دعم من دول أوروبية أكتر من الداخل.
Donc c'est très difficile de demander au ministre de la Culture de soutien de ou de subvention de fonctionnement. Donc souvent ils font appel à des fonds européens.
ففي كتير مشاريع اللي منحاول نلاقي لها تمويل من مؤسسات مهتمة في الثقافة والفنون في الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين من دول أخرى مثلا زي السويد.
Et donc souvent le travail serait avec des institutions qui sont intéressées par la région, par le Moyen-Orient. Et donc là pour eux, souvent ils travaillent par exemple avec des institutions suédoises.
فهذا بيعني إنه في عدم استقرار مادي.
Et cela signifie qu'il n'y a pas de financièrement ils sont pas stables.
علشان هيك إحنا منحاول نشتغل بمشاريع مختلفة عن طريق بناء شراكات طويلة المدى مع مؤسسات إحنا ممكن نتشابه في فلسفتنا معها.
Donc c'est pour ça qu'il essaye de travailler avec plusieurs institutions à la fois et surtout pour travailler avec des institutions à long terme et trouver des institutions qui ont aussi une vision artistique ou ils ont les mêmes philosophies par rapport à la production artistique qui peuvent coopérer avec eux à long terme.
في عنا كمان بنحاول نخلي المجتمع المحلي يساهم في جزئية من شراء عروض مثلا مسرحية أو من إنه يدفع تكاليف لبعض الأشياء بس بتبرعات عينية مش مادية.
Essaye de travailler avec la société locale pour certaines aides pour la production, mais de façon, on va dire, des aides en nature, pas des aides financières.
فبنحاول طول الوقت إنه نحاول نكون ضامنين إنه في مدخول يغطي التكاليف، لكن هذا شبه كابوس لأنه طول الوقت بنحاول نلاقي حلول.
Et en fait, c'est tout le temps ils sont en train d'essayer de trouver le minimum pour le fonctionnement, et pour eux c'est comme un cauchemar parce qu'ils sont tout le temps à la recherche des solutions et ça finit jamais.
ومرات هاي الحالة بتسبب كمان إرهاق لأنه بتعطيش الفنانين حرية الإبداع بدون القلق بإيش بده يجي بعد في المستقبل.
Et cette situation est très épuisante pour les artistes parce qu'ils savent jamais qu'est-ce qui dans l'année à venir qu'est-ce qui va se passer. Ils sont tout le temps au jour le jour qui à peu près la marge de voir pour au loin elle est très serrée pour eux. Donc c'est tout le temps dans l'inquiétude de ce qu'ils vont faire bientôt. C'est incertain.
Dunia Ben Sliman, si on peut considérer que par exemple en Palestine, les problèmes de financement ne sont pas uniquement dus à une question de volonté politique, il y a aussi un contexte militaire, un contexte d'occupation. Par contre, au Maroc, Ça semble que ça relève davantage d'une absence de volonté politique. Est-ce que la reconversion culturelle, par exemple, des abattoirs, elle a été officialisée ?
Non, il n'y a aucune officialisation de cette reconversion. Ce qui est complètement paradoxal, sachant qu'à la base, c'était une initiative de la mairie de Casablanca qui a très très rapidement fait 10 pas en arrière dans toutes ses promesses et ses engagements vis-à-vis du collectif et vis-à-vis des organisations qui le composent. Moi, je voudrais dire que, en fait, ce qui se passe aux abattoirs et les obstacles qu'on peut observer, la difficulté de mettre en place des projets comme ça, de monter des projets culturels, etc., ça reflète un petit peu, c'est le reflet, en fait, de toute la problématique de la culture dans notre pays, au Maroc, où, en fait, c'est vraiment un problème structurel. C'est que déjà, à la base, il faudrait avoir une vision pour les arts et la culture au niveau national, au niveau local, au niveau des collectivités territoriales, etc.
Oui, parce qu'il y a quand même des grands festivals au Maroc.
Oui, on est, le pays africain où il y a le plus de festivals dans l'année. Mais si tu veux, les festivals, c'est beaucoup, beaucoup d'entre eux. D'abord, c'est des initiatives privées, avec des sponsorings privés, donc corporate, entreprises, etc., où il y a beaucoup, une grosse part d'image du pays ou de la région ou de la ville ou ce qu'on veut. Donc on n'a pas, on a des festivals d'avril à septembre, c'est très ponctuel, et puis après on oublie. Les publics, on n'y pense pas le reste de l'année, on ne pense pas à la formation artistique le reste de l'année, aux échanges, aux projets de collaboration, etc. Donc c'est seulement du divertissement. Encore une fois, on est... structurellement pas prêt à travailler dans la culture avec une vision. Et c'est ce que nous, on demande, entre autres, à travers ce projet, c'est qu'on est là, il y a une dizaine d'experts ou de professionnels de la culture et des arts qui ont une grosse expérience. Donc il y a le boulevard, il y a des associations qui travaillent dans la mode, il y a des associations qui travaillent dans la culture et le développement, dans les politiques culturelles. On est là justement pour dire ce projet, la fabrique culturelle, c'est pour faire un modèle de politique culturelle à une échelle qui peut être reproductible à l'échelle de tout le pays, ce qui est très important. Tant qu'on n'a pas cette vision globale, tant qu'on n'a pas un travail sur la base, on va juste faire des festivals pour l'image ou des activités culturelles ponctuelles, etc. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin au Maroc, c'est une politique culturelle, une vision, bien évidemment avec un budget, avec des prises de décision qui sont politique.
Et sans doute aussi des droits, car on parle quand même de textes, dramaturgie, et je crois que les droits d'auteur, par exemple, au Maroc, ça n'existe pas vraiment.
Ça n'existe pas vraiment, non. Nous avons un bureau marocain des droits d'auteur qui n'a de droits d'auteur que le nom. Donc c'est aussi un des maillons qui manque pour l'industrie créative au Maroc, pour les musiciens, pour les auteurs, pour les dramaturges, etc. Ce bureau existe depuis une vingtaine d'années, mais les artistes n'arrivent pas à vivre de leur art parce que leurs droits ne leur sont pas versés. Donc si tu veux, c'est un cercle vicieux où il manque le nerf de la guerre et donc les créateurs ne peuvent pas créer parce qu'au moment où ils doivent créer, ils vont travailler, ils sont banquiers ou je sais pas moi, avocats, mais donc ils ne se consacrent pas à leur art et à leur création. Et donc voilà, et ce qui fait que ça se reflète aussi sur la qualité parce qu'on est dans une étape où on ne pense pas beaucoup, en priorité en tout cas, à l'excellence artistique ou à la qualité, mais on pense surtout aux moyens qu'on met pour justement arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si on commence maintenant, à avoir un certain niveau d'excellence au niveau de la production artistique marocaine.
Peut-être une dernière question. On parlait de dramaturgie arabe. Et en même temps, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pays. Comme on parle des révolutions arabes, et c'est pas homogène, il y a une hétérogénéité. Qu'est-ce que ça veut dire donc dramaturgie arabe Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous là? C'est quand même des situations différentes.
C'est des contextes complètement différents. On voit là entre le Maroc et la Palestine, là, c'est vraiment des contextes complètement différents. Mais on n'a pas besoin d'être aussi, on n'a pas besoin de comparer ces deux pays qui sont logiquement très, très différent, mais si on voit juste des voisins, l'Algérie, la Tunisie, on est tout proche, mais les contextes sont complètement différents. Je veux dire sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les plans culturels, etc. Même quand on parle monde arabe aujourd'hui, il y a tout un pan de la culture maghrébine où on a la culture amazigh, cette diversité culturelle qui n'est pas du tout incluse dans ce concept de monde arabe aussi, donc ça aussi c'est important. C'est pas la même chose. Il y a des contextes différents.
Marina, vous vous sentez proche Palestine, Maroc, vous vous sentez proche, plus proche du Maroc que, je ne sais pas, d'autres pays. Est-ce que arabe, c'est quelque chose qui englobe pour vous, voilà, de la Palestine jusqu'au Maroc, par exemple?
Oui, mais c'est la manière qui est allée en النص المسرحي العربي الدراماتورجي العرب فهو عدد انه في 8 بلدان مثلا مشاركه في النصوص جايه من 8 بلدان فهل هي متشابهه شو هو وجه التشابه يعني هل بالنسبه لك من فلسطين للمغرب هو في يعني في سياق واحد في جو واحد شو يعني النص المسرحي العربي بالنسبه لي
موضوع إن الأول شيء إحنا جمعنا نصوص من 10 بلدان عربية مش بس من 8 بلدان عربية وفي اختلاف بين البلدان العربية ومستوى النص المكتوب في البلدان العربية.
Au départ, on a donc réuni des textes pas seulement de huit pays, il y avait 10 pays et donc il y avait des différences entre ces textes. Autant au niveau du contenu ou du contenant, c'est-à-dire il y avait des différences entre ces textes.
الاختلاف مش بس في المستوى كمان الاختلاف بالمواضيع اللي بتطرح في النص المسرحي العربي.
Donc voilà, donc il y avait des différences dans le sujet, de quoi ça retourne, quels sont les sujets traités en Palestine ou au Maroc ou en Algérie ou
والمواضيع هاي لها علاقة في المعاناة أو الظروف أو التحديات اللي بواجهها الكاتب إن كان في المغرب أو إن كان في تونس أو في أي بلد عربي موجود.
Et donc les textes concernaient toujours les défis que l'auteur rencontre ou les sa vie qu'est-ce qu'il traverse.
المعاناة اللي بعيشها الكاتب في لبنان مختلفة عن المعاناة اللي بعيشها الكاتب في فلسطين أو في سوريا.
Les difficultés que peut traverser un auteur au Liban ou au Maroc ou en Palestine ou en Syrie sont différentes.
فهي اللي بتشكل الشخصية تبعت الكاتب وبتعطيه الإلهام إنه وين اتجاه النص المسرحي اللي هو بده يكتبه.
Et que c'est ces contextes-là, c'est eux qui façonnent l'auteur et qui lui donnent une voix qui est différente de l'autre.
إذا بدنا نحكي عن المشروع اللي إحنا هلا موجودين فيه اللي هو النص العربي المعاصر فهو مشروع كتير مهم لأنه بحاول يعطي فكرة لل كتاب والمسرحيين والمخرجين الأوروبيين وخاصة في فرنسا يعرفهم على النصوص العربية المسرحية الموجودة في الدول العربية.
Donc si on va parler du programme de ce projet de dramaturgie arabe, il est très important parce que il ouvre une fenêtre pour les gens ici en France sur sur dramaturgie arabe différente et multiple.
وعروضنا اللي موجودة هلا نتيجة هذا المشروع في لفريش زي باي باي جيلو أو مسرحية هلو اللي تقدم الليلة ورح تقدم يوم الأحد في لفريش الساعة 4 هي نموذج من هاي النصوص المسرحية.
Et les spectacles qui vont être présentés comme Hello Gilo ou Hello
Bye Bye Gilo and Hello.
Hello. واحد تاني ولا هلو
فودير واحد تاني من لبنان
هلو veut dire bonjour
c'est un autre
hello veut dire bonjour
donc il y a deux hello partout
hello et bye bye
hello et bye bye et donc tous ces textes font partie de cette différence de matière
كتير مهم الاطلاع على هذا المشروع عن طريق الويب سايت اللي موجود لأنه بعرف نوعية النصوص الموجودة وبعرف العالم الأوروبي إنه في إمكانية للتعاون مع هاي النصوص وتعامل معها.
Donc c'est très important de voir ce projet ou de près de voir de prendre connaissance de ces textes parce que ça montre aussi qu'il y a encore du travail à faire entre l'Europe et le monde arabe sur ce niveau, à ce niveau-là.
On va prendre justement connaissance de ce texte, on en écoutera tout à l'heure quelques-uns, et puis on va recevoir aussi les auteurs là maintenant, donc dans pas très longtemps. Je crois que Fouad Yamine est tout proche de nous. Merci à vous Doumia Benslima. Merci. Et puis Marina Baham d'être venue dans les studios nous parler de vos expériences, et on va donc recevoir Fouad Yamine, qui est metteur en scène, et puis quelques auteurs tout à l'heure.
Dès qu'ils seront libérés, oui. Taha Adnan, on parlait de Bye Bye Gilo à l'instant, qui est tunisien et qui a travaillé avec un metteur en scène palestinien sur son texte. Donc voilà, ça montre aussi que ça se croise pas mal. On va en parler avec eux, et juste avant, on fait une nouvelle pause musicale avec. On reste dans l'arabe rock made in France, un petit peu, avec un petit peu le précurseur, Rachid Taha, évidemment. Il est en concert demain soir à Marseille, samedi 30 novembre, du côté du Parc Chano. Son dernier album est excellent, il revient en très grande forme. On en écoute un extrait, Rachid Taha. This song for Kurt Cobain. الباسبور ما عنديش والفيزا تاني الباسبور ما عنديش والفيزا تاني ما عنديش الباسبور ما عنديش الفيزا ما عنديش لا كارت بلو ما عندي والو ما عنديش الامور Rachida, excellent avec son dernier album. Il est en concert à Marseille ce samedi 30 novembre du côté du Parc Chanot au Palais des Congrès. Et son disque, on vous l'a beaucoup diffusé sur les ondes. On est toujours ensemble en direct pour cette émission spéciale Iwarat. Et après une première partie, on va dire peut-être un peu plus consacrée au contexte de production culturelle et théâtrale avec des témoignages venus de Casablanca et de Palestine. On a le plaisir de recevoir Fouad Yamine. Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Metteur en scène pour Iwarat d'un texte qui s'appelle intitulé Hello veut dire bonjour, écrit par Tarek Bacha. Alors, Fouad, tu ou vous, je ne sais pas.
Tu
es libanais, ouais. Et comment est-ce que tu as été intégré dans cette histoire Iwarat dont Alain Arnaudet nous expliquait que ça avait été une histoire qui s'était construite progressivement à plusieurs étages. D'abord la recherche des textes et puis ensuite la recherche de personnes qui soient ouais. en mesure de les porter sur scène, et, etc.
Alors comme tu sais, il y a le groupe Shams qui est responsable de la production au Liban parce que la friche, elle a, dans chaque pays, la relation avec une production. Alors Shams m'a contacté pour dire écoute, il y a un texte de Tarek Bacha qui est aussi un ami dans notre petite communauté de théâtre au Liban. Alors il y a un texte, je dis oui, moi je connais ce texte, j'avais déjà lu avant. Et j'ai dit oui, je serais très content de le mettre en scène. Et il m'a expliqué tout le projet. J'étais encore plus content quand j'ai connu qu'on va le jouer à Tunisie, en France et puis finalement au Liban.
Fouad, tu es un metteur en scène un peu particulier tout de même, hein, parce que tu es à la fois à l'endroit non, du théâtre
oui.
et aussi des marionnettes.
Oui,
peut-être qu'il faudrait que tu nous en dises un peu la place, par exemple, du théâtre de marionnettes dans cette mise en scène-là.
Oui, oui.
Et aussi...
Du rock aussi.
Du rock, voilà. Et de la télévision.
C'est vrai.
C'est aussi vrai. Producteur d'émissions de télévision.
Alors, tout peut être expliqué, si tu veux, parce que moi, dans la télévision, je fais un programme satirique. C'est un journal télé du soir, de ce qui se passait dans la journée, mais dans une façon satirique. Et Hello veut dire bonjour, c'est une pièce vraiment trop satirique, vous allez voir maintenant. Les marionnettes, moi je travaille avec les marionnettes depuis des ans déjà, et il y a beaucoup de travail de marionnettes, entre guillemets, dans Hello veut dire, parce que toute la conception de scénographie, c'est des trucs faits avec du carton, des revolvers, tout ce qui est fait, c'est pas vrai, c'est des choses qu'on manipule comme des marionnettes. Et puis pour le rock, parce que je suis aussi fan de la musique rock, alors c'est pour cela.
Et ces espaces-là ne sont pas des espaces totalement séparés pour toi, tout ça, l'un peut alimenter l'autre.
Bien sûr, parce que quand tu travailles dans le monde du théâtre, tu sais, le monde du théâtre, c'est un monde très multi... comment dire, multi... aide-moi dans le mot, multi...
multiple.
Oui, multiple.
Multidisciplinaire.
Multidisciplinaire, alors que tu peux faire tout dans le théâtre.
Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce texte-là de Tarek Bacha? Qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé?
Ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'on vit beaucoup au Liban et dans les pays arabes, c'est que tu as besoin de ton ennemi pour survivre. Alors si tu n'as pas un ennemi, tu peux pas survivre. Et ça, c'est la politique maintenant tout ce qui se passe dans les pays arabes, c'est créer de nouveaux ennemis pour pouvoir alimenter plus tout ce qui est pour alimenter bien une bonne guerre. Tu as besoin de bons outils. Alors tu as besoin d'un ennemi au début. Alors et c'est la pièce, elle parle de cette idée de créer un ennemi
pour, la logique
pour,
de guerre
ouais. Oui, pour pouvoir survivre.
Puisque de nouveaux invités sont arrivés dans les studios, mais avant de vous les présenter et de les accueillir, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un texte qui s'intitule « La maison » d'Arzé Koder, des textes lus par Chloé Vivares et Anna Carlier. On se retrouve tout de suite après.
La maison. Arzé Koder. Alors, tu es arrivée avant moi aujourd'hui?
Oui, j'avais envie de rentrer plus tôt. J'ai fait bouillir des pâtes et j'ai apporté des tomates pour que tu nous fasses ta sauce spéciale, Nadia.
Mais oui, la sauce spéciale, Nadia. Comment tu y as pensé?
Mais j'y pense tout le temps. Chaque fois que je mange des pâtes chez quelqu'un, je me dis que ta sauce, c'est la meilleure.
C'est vrai, tu ne me l'as jamais dit.
Mais si, je te dis tout le temps que tu cuisines à merveille et toi, tu n'arrêtes pas de te moquer de moi parce que je ne sais pas cuisiner.
C'est vrai que tu ne sais pas cuisiner. Tu te rappelles ce que maman t'a dit une fois? Comme quoi, heureusement que tu ne t'empoisonnes pas avec ce que tu cuisines.
Elle ne me l'a pas dit à moi, elle te l'a dit à toi et tu es venue me le répéter.
Oui, c'est vrai.
Bon allez, va nous faire ta sauce spéciale, Nadia.
Ouais, mais c'est un peu compliqué, je suis fatiguée et je n'ai pas envie d'aller couper des tomates et des oignons.
Bon, laisse tomber. Je vais presser du citron et on fera des pâtes à l'huile d'olive et au citron.
Non, non, allez, si tu en as vraiment envie, je me repose un peu et je te la fais.
Mais c'est bon, je peux manger n'importe quoi, moi.
Non, non, laisse-moi juste me reposer un peu.
Mais c'est bon, je te dis, tu la feras demain ou dimanche, d'accord? Je voulais juste qu'on mange ensemble et qu'on discute un peu.
Ah, il y a une discussion en perspective?
Oui, un truc important.
Vas-y, dis-moi.
Nadia, je pense à un truc qui peut nous simplifier la vie.
À quel niveau?
À tous les niveaux. Toi, tu te fatigues trop au boulot, et puis tu rentres à la maison et tu travailles, tu fais à manger, tu fais le ménage, et des fois il y a le toit qui fuit, des fois c'est la salle de bain, et puis il y a le jardinage, et moi je pars là, et toi tu vas rester toute seule.
Oui, mais qu'est-ce que je peux faire?
Regarde ce qu'on peut faire. J'ai pensé que les prix de l'immobilier flambent en ce moment, et cette maison est en plein cœur de Beyrouth, et elle est immense, elle peut nous rapporter beaucoup, alors on peut la vendre et se partager l'argent, on peut avoir près de 800 000 dollars chacun.
Quoi? Tu veux vendre la maison?
J'y ai pensé, oui. Pourquoi pas? Comme ça, Nabil peut finir de payer les traites de sa maison. Et moi, j'achète un appartement au lieu de payer des loyers toute ma vie. Et toi aussi, tu t'achètes une maison. Et tu prends même une bonne pour vivre avec toi. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais ça va pas la tête. Tu es dingue ou quoi? Tu veux me tuer? Tu veux te débarrasser de moi?
Moi? Mais pas du tout. Je veux juste que tu te reposes, que tu respires un peu.
Et tu en sais quoi, toi, de comment je me repose, de comment je respire?
Très bien. Moi, je veux me reposer. Moi, je veux respirer. Moi, je veux vendre la maison.
La maison de Arzé Koder, lu par Chloé Vivarès et Anna Carlier, qui sont deux élèves de l'ERAC, l'école régionale d'acteurs de Cannes. Et nous sommes toujours dans cette émission spéciale Iwarat, dramaturgie arabe, et nous ont rejoint dans les studios Gehan Kalafala. Bonsoir Gehan.
Bonsoir, c'est Gehan.
Gehan, pardon.
Oui.
Et Adnan.
Adnan, oui.
Adnan, excusez-moi. À la Friche, dans le cadre de ce festival, il y a une rencontre qui s'intitule « Écrire, éditer, quels horizons ? La création de dramaturgie et littéraire dans les sociétés arabes après les révolutions ». Je crois que vous y participez.
Oui, tout à fait.
Allez, c'est une question générale, justement, la production littéraire et dramaturgique après les révolutions. Quelque chose a vraiment changé au niveau des productions, selon vous ?
Je ne sais pas si ça a changé spécialement après les révolutions, mais c'est vrai que le contexte de l'édition dans le monde arabe est totalement différent de ce qui se passe en France, parce que nous, on vient plutôt d'une tradition orale et on ne pense pas systématiquement à éditer. Et je parle de mon cas personnellement.
Précise
par
que vous êtes auteur, hein, et oui. Journaliste d'ailleurs aussi.
Oui. Et par contre, on dépend de financements européens, français, moi par exemple. Jusqu'à présent, j'ai toujours écrit, parce que j'ai eu des bourses en France. Et dans ce cas-là, on est obligé de suivre un système qui est plutôt français et passer tout le temps par l'édition. Donc moi, je suis dans cet entre-deux, en fait. Le théâtre est-il fait pour être édité ou pas? Pour moi, c'est une étape, mais ce n'est pas une finalité en soi.
Et les contenus, est-ce qu'ils ont évolué depuis les révolutions arabes? Est-ce que les contenus, les textes, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de neuf qui s'est joué tard?
Oui, moi je dirais déjà l'écrivain c'est un peu l'historien du présent, déjà en quelque sorte. Donc certainement, il y a une réaction avec tout ce qui peut y avoir comme mutation. Mais il ne faut pas s'attendre non plus, et ça c'est très problématique, il y a eu un horizon d'attente qui se développait ici en Europe et qui veut directement de la littérature ou de la création cocotte minute. Réaction de ce qui se passe là-bas, et voilà, et parce que ça vend, et parce qu'il y a des programmateurs, des imbéciles généralement, qui précipitent la création dans ce sens. Les gens, bien sûr, s'ils veulent passer ici en Europe, ils doivent faire aussi et satisfaire ce besoin et cette demande. Moi, je crois la seule production qui peut sortir maintenant et qui réagit vite aux mutations chez nous, ça ne peut être que une création d'ordre un peu médiatique ou journalistique. La création, ça demande beaucoup de temps. Ça demande le temps et ça demande... Moi, je me rappelle maintenant de Nasser, Jamal Abdel Nasser, le président égyptien, qui disait que la révolution de juillet 52 a été en quelque sorte influencée par un roman de Tawfiq al-Hakim qui a été écrit bien avant. Je ne suis pas sûr, j'ai oublié déjà le roman. Au niveau de la Révolution française, certainement, il y a des écrivains qui sont peut-être décédés même avant la Révolution française, mais qui l'ont, et je pense à un particulièrement, vous pouvez même m'aider en le citant, qui est décédé bien avant la Révolution française, mais qui l'a certainement un petit peu anticipé en quelque sorte. Moi, je crois que le rôle de la création aujourd'hui, c'est d'anticiper et non pas de réagir tout de suite. Si elle va réagir par rapport à des mutations, parce que tout ce qui se passe dans le monde arabe, les révolutions, etc., etc., un bon lecteur de la littérature arabe, pas celle qui est traduite et qui est vendue en Europe, parce que généralement, l'Occident est là aussi plus ou moins des normes. Hein. Donc, on cherche quelque chose de folklorique. On cherche à voir ce qui se passe là-bas, ce qu'il y a en dessous des djellabas, quelque chose de folklorique. Mais la littérature moderne, actuelle, existe. Mais pour aller la chercher et dedans, aller voir les vraies mutations, Et d'où ça vient tout cela, c'est vrai qu'il faut un peu plus de patience et un peu moins de précipitation.
Fouad, vous êtes d'accord avec ça, l'artiste témoin et en même temps qui anticipe?
Mais quand on a besoin de temps un peu pour comprendre ce qui se passe, parce que nous, là-bas, maintenant, on ne comprend pas beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'informations à digérer. Alors, je crois qu'on a besoin encore un peu plus de temps, parce que maintenant, si on va écrire maintenant, c'est un peu une réaction émotionnelle et pas vraiment prendre ton temps pour réfléchir de ce qui s'est passé vraiment, parce qu'on est là-dedans maintenant. Alors, je crois qu'on a besoin de quelques temps encore.
Ceci dit, si je peux juste intervenir sur ce point,
c'est vrai
que il y a des réactions, il y a des gens qui écrivent très très rapidement pour être témoins de leur époque. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie, ce qu'on a appelé la littérature de l'urgence pendant les années de terrorisme, où il y avait vraiment une envie de dire les choses, dire ce qu'on vit. Chacun s'est mis à écrire et il y a eu une flopée de romans à ce moment-là. Après, voilà, qu'est-ce qui reste de cette époque, de cette littérature de l'urgence? Mais elle est aussi témoin d'une époque et on trouve... L'histoire est là-dedans.
Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre d'une littérature de l'urgence, au sens où est-ce qu'on assiste aussi à une profusion d'expressions, non? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a libéré la parole et l'écriture avec ces événements tout de même?
Certainement. On les voit artistiques aujourd'hui, il y a même des vedettes. Par exemple, si je prends le Maroc, il y a des vedettes du mouvement 20 février. Moi, j'ai été, je fais partie des Marocains de la diaspora, mais j'étais au tout début dans cette dynamique. Et puis, à un certain moment, je vois justement un jeune qui est rappeur et qui devient vraiment l'idole du mouvement. Mais j'écoute la musique, c'est médiocre. Et je m'excuse, je dois dire aussi que c'est médiocre. Ça peut être intéressant dans le sens où c'est une sorte de création de la précipitation qui peut vous donner un petit peu... Vous pouvez sentir un peu ce qui se passe là et maintenant, mais au niveau artistique, ça ne vaut pas la peine. Donc, moi, je crois, si on veut vraiment être des artistes et des créateurs indépendants, on doit aussi aller à l'essentiel.
Mais Jehanne, vous êtes journaliste. J'imagine que vous, sans doute, hein, que vos écritures littéraires sont, ont une certaine porosité avec votre travail de journaliste. Est-ce que toutes ces paroles, aussi médiocres soient-elles, et je ne sais pas si elles le sont toutes, peut-être que vous n'êtes pas d'accord.
Je parle de l'harqat.
Peut-être. Mais que tu est-ce que vous vous appuyez justement sur ces paroles comme étant des documents, des témoignages pour nourrir vos travaux littéraires?
Oui, certainement. On ne peut pas de toute façon échapper à, sa, à son environnement. On pioche dedans d'une façon consciente ou inconsciente, souvent inconsciente justement. Mais moi, je trouve que plutôt dans, dans le milieu des arts plastiques, il y a eu une très très belle production. Plus que dans la littérature post-révolution arabe, il y a eu une émergence de nouvelles formes, de, que ce soit dans la vidéo ou la vidéo, la peinture. Enfin, il y a eu des formes et je pense que c'est pas que c'est moins subversif, mais c'est moins compréhensible par certaines, par les autorités. Donc, il n'y a pas vraiment de censure à ce niveau-là. Moi, je trouve que dans les arts plastiques, il y a eu de très très belles choses qui ont été faites ces deux dernières années dans le monde arabe de façon générale.
Fouad, vous vouliez réagir à ce qui a été, ce qui a
pour
été
moi,
dit?
Pour moi, parce qu'il y a une différence de ce qui se passe au Liban et de ce qui se passe dans, dans les autres pays arabes. Parce qu'au Liban, vraiment, et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu maintenant une révolution dans, dans tous ces, ces cycles de révolution qui se passent, parce qu'au Liban, il, la guerre, pour moi, continue d'une façon indirecte. Et c'est différent des autres pays arabes, parce que la plupart des pays arabes, ils vivaient dans, une, dans, dans un état de stabilité en général, et soudainement, il y a eu cette grande révolution, mais au Liban, depuis la guerre libanaise qui s'est arrêtée en 90, mais qui n'est jamais arrêtée, il y a toujours cette transformation qui se passe chaque jour, chaque semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent, alors il n'y a pas eu ce moment de stagnation, et puis une grande révolution, une grande bombe qui est venue pour changer les États. Et alors au Liban, c'est un peu différent parce que je comprends de ce que, de quoi il parle, mais je peux dire qu'au Liban, il y a toujours une révolution, une petite révolution qui est en train de se passer tout le temps. Alors c'est ça la différence.
D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Fouad, mais c'est la, de cette logique de guerre aussi dont vous vous saisissez dans le texte de l'auteur Tarek Bacha pour la mise en scène d'Hello veut dire bonjour. Alors en effet, Fouad, vous êtes libanais, vous êtes marocain, mais vous vivez à Bruxelles. Jehanne, vous êtes algérienne, donc en
et
effet,
je vis au Maroc.
Je vis au Maroc, donc évidemment, on se doute aussi bien que vous avez tous des réalités différentes, des points de vue différents, tout ça. Alors justement, dramaturgie arabe. Alors certes, c'est mis au pluriel, mais quelle réalité cela recouvre-t-il pour vous? Est-ce que c'est la langue? Mais on sait que c'est pas une langue non plus uniforme. Est-ce que c'est comment est-ce que vous interprétez cette appellation là et dans quelle mesure vous la trouvez-vous pertinente?
Oui, moi c'est vrai que en fait je sais pas, je me méfie toujours de en fait des expressions qui englobent plein de choses. Hein, moi je n'aime pas trop dire déjà par rapport à ce que Fouad vient de dire que ces pays sont comme ça. Où ils sont tous les mêmes, et il n'y a pas de... Moi, je fais l'exception, parce que nous avons des réalités vraiment différentes. L'Algérie, ce n'est pas le Maroc. Le Maroc, ce n'est pas le Liban. Le Liban, ce n'est pas l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas la Syrie. Et ça, on le voit. Ce qui allait dans le sens où, oui, ça va changer les révolutions arabes. Est-ce que ce sont des révolutions? D'abord, on doit se poser des questions pour voir est-ce que ce sont réellement des révolutions ou pas. Moi, je suis... dans le questionnement. Dans ce questionnement, on peut développer des sensibilités. C'est vrai, par exemple, qu'au niveau du travail de... Alors que moi, il faut dire que c'est mon premier texte pour le théâtre. Je suis à la base dans la poésie, donc je ne vais pas jouer le savant dans la matière, mais ça n'empêche. Je dis qu'il y a des sensibilités, à la limite au pluriel, arabes, qu'on peut reconnaître. Comment on peut traiter, par exemple, un texte. C'est vrai que même au niveau du langage, il peut posait problème, par exemple, parce que le texte libanais, c'est en dialecte libanais. Le texte tunisien, c'est en dialecte tunisien. Dans les 7 livres qui sont sortis, je crois que Bye Bye Gilou, mon texte, est le seul qui est écrit dans un arabe moderne, un arabe littéraire, je dis littéraire pour ne pas dire classique, vous voyez déjà, je disais moderne et actuel, pour que ça soit justement joué par des Palestiniens aujourd'hui. Mais on peut, dans cette diversité et de langage et artistique, on peut quand même trouver des sensibilités arabes.
Rapidement, Fouad, sur cette question, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité pour vous ?
Juste, je veux dire que dire dramaturgie arabe, c'est très vague, c'est très vaste. C'est parce que l'existence même des pays arabes, c'est une... Il y a beaucoup de mini-cultures dans cette grande culture. Alors dire dramaturgie arabe, c'est vraiment dire, comme si je vous demande... Maintenant, parlez-moi de la dramaturgie européenne. Tu vas me dire, tu es bête. Alors, c'est un peu quand je lis dramaturgie arabe, entre moi même, je rigole un peu, je dis, oui, dramaturgie arabe, mais c'est quoi pays arabe ? C'est une longue discussion. Mais je suis d'accord de ce qu'il vient de dire, que oui, il y a des choses... commune qu'on peut dire que peut-être la langue commune entre guillemets aussi, mais oui, c'est une on peut pas parler de ça dans une minute.
Géane, est-ce que vous croyez qu'en une minute vous arriverez à dire quelque chose?
J'essaie de dire des choses intéressantes. Ceci dit, moi j'écris pas en arabe, par exemple. Alors est-ce que je fais partie de dramaturgie arabe ou pas? Je suis auteur d'expression française. Et mes pièces sont montées en France, par exemple. Et quand je travaille avec des comédiens qui ne comprennent pas des choses dans mes textes, je leur dis, je ne suis pas française. Donc, ne vous référez pas, ce n'est pas de la littérature européenne, ce n'est pas du Shakespeare, ce n'est pas vos références habituelles dans la dramaturgie. J'en ai d'autres, et j'en ai pas mal, parce que je suis berbère, arabe, africaine. C'est une sédimentation de plein de choses, de plein d'histoires. Et juste un petit exemple qui, pour moi, illustre la question. Quand j'ai envoyé dernièrement un de mes textes à des comités de lecture, donc de façon totalement anonyme, et les retours que j'ai eus, parce que d'habitude, tout de suite, auteur arabe, maghrébine, voilà, on nous met tout de suite dans une case là. Ils ne savaient pas du tout à qui ils avaient affaire. Et le retour des notes de lecture était assez intéressant, parce qu'ils disaient tous, l'auteur est africain. C'était la première fois qu'on parle de moi en tant qu'auteur africain. Je trouvais ça extraordinaire.
Il est terrestre.
Voilà. Et donc, qui on est ? On est plein de choses à la fois. On ne peut pas figer une identité. On est toujours en devenir.
Si
on pense à une arabité multiple qui peut englober l'africanité, la mazérité et je ne sais pas quoi... Et aussi cette appartenance à la Méditerranée, je crois qu'on peut dire aujourd'hui dramaturgie arabe contemporaine au pluriel.
Merci pour ces mots de conclusion. Merci à vous d'être venus et cet échange là que nous avons eu, très, très joyeux aussi.
Jeanne Kalfala, Taha Hanan et Fouad Yamine, tous les trois présents dans le cadre d'Iwarat. C'est jusqu'au 1er décembre à la Friche Belle de Mai.
Et Bye Bye Gilo, à ne pas louper. C'est dimanche 1er décembre à 16h. Le spectacle de Fouad se joue encore.
Maintenant, on va commencer.
C'est maintenant.
Oui, oui. Maintenant.
C'est maintenant à 20h. Hello, veut dire bonjour.
Ce que je propose, c'est qu'on se quitte, qu'on termine cette émission spéciale avec un texte lu par les comédiennes, les élèves de l'ERAC.
Ludivine de Briceps, c'est ça, et Capucine Félie pour Les Petites Chambres.
Attel de Wael Kadour.
Les Petites Chambres de Wael Kadour. Je suis si bas.
Entrez.
Je suis désolée d'arriver si tôt.
Pas de problème. Si vous n'étiez pas venu maintenant, on ne se serait peut-être jamais rencontrés.
Vous partez en voyage ?
Je quitte la maison.
Je suis venue vous parler de ça, justement.
Vous allez mieux ?
Je n'ai plus mal.
Arrêtez d'essayer de vous tuer.
D'accord. Mais à une condition, ne partez pas.
Je vous aurais reconnue même si vous ne m'aviez pas dit votre nom.
Comment ?
Amar vous a très bien décrite.
Qu'est-ce qu'il a dit sur moi ?
Il a dit que vous étiez belle, même si vous faites plus que votre âge. Vos cheveux ont poussé?
Je les ai laissés pousser cette année.
C'est plus joli comme ça.
Amar vous aime.
Je sais. Laissez-moi vous faire un café.
Vous quittez vraiment la maison?
Oui. Comment vous prenez votre café?
Moyennement sucré. Vous vous êtes disputé hier?
Il vous en a parlé?
Il m'a appelé, mais ce n'est pas lui qui m'a demandé de venir ici. Il ne sait pas que je suis là. Je ne veux pas vous déranger ou vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Et je ne sais même pas si ça peut changer quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que je vous aime tous les deux et que je veux que vous restiez ensemble.
Et nous aussi, on vous aime. Ça fait longtemps que j'écoute Amar parler de vous. À chaque fois qu'il revient de chez vous, il me donne de vos nouvelles. Vous êtes devenus proches alors qu'on ne se connaît pas.
Pourquoi vous voulez partir alors?
C'est mieux comme ça. Chacun va pouvoir repartir à zéro.
Et si dans un moment vous vous manquez, vous allez vous remettre ensemble?
Oui, on le fera.
Alors vous n'êtes pas amoureuse d'un autre avec qui vous voulez vivre?
Il semblerait que Amar vous raconte tout.
Depuis longtemps, mais je lui ai toujours dit qu'il se trompait.
Non, il ne se trompe pas. J'aime quelqu'un d'autre et je veux quitter Amar pour lui.
Comment ça? Vous êtes ensemble depuis si longtemps?
C'est vrai. Vous l'avez dit, on est ensemble depuis si longtemps. Mais on est juste ensemble.
Mais vous lui faites du mal comme ça, il ne vous a rien fait.
Le problème n'est pas
fini. Vous n'aimez pas Amar?
Je l'aimais. Mais ça fait longtemps que je ne l'aime plus.
Pourquoi?
Il s'est mis à s'éloigner de jour en jour. Petit à petit, il ne me racontait plus rien. Tiède, toujours occupé, distrait. Il ne faisait plus attention à moi. Il ne remarquait même plus si quelque chose avait changé. On s'asseyait et on parlait. Un peu de vous, un peu des infos et c'est tout. J'allais me coucher. Vous me croyez si je vous dis que j'ai passé plus d'un an à penser qu'il en aimait une autre?
Il a beaucoup de travail.
Vendredi 29 novembre de 18h à 20h, branchez-vous sur les 3-8 pour un rendez-vous aux couleurs du projet dramaturgie arabe contemporaine Hiwarat. La grenouille vous embarque dans son studio avec temps libre et dans son émission spéciale Hiwarat à la Friche Belle de Mai. Retrouvez toutes les infos sur www.radiogrenouille.com.